Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.
Bonjour Lucien.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors nous avons évoqué la semaine dernière l'union sacrée au sortir de la guerre.
Oui.
Où l'image du clergé a quelque peu changé, et cela oui. Positivement. Donc ça va donner à l'Église et aux liens dans la société, avec la société, une nouvelle direction, on pourrait dire.
Oui, l'union sacrée va se traduire par des élections législatives où va être élu un grand nombre de députés de ce qu'on appelle le bloc national, qui dépasse les clivages gauche-droite, et puis donc en 1919, et puis Clemenceau, le tigre, n'est pas élu président de la République. Les gens redoutent un peu une personnalité trop belliqueuse, même si lui sont reconnaissants d'avoir pris en main la fin du conflit, mais peut-être d'une manière trop forte, parce que le traité de Versailles en 1918 est très humiliant pour l'Allemagne. Bref, il y a un souci d'apaisement. Et ce souci d'apaisement se manifeste en France par de nouveaux rapports avec le Saint-Siège. Un ambassadeur est nommé en 1921. Et puis, il va y avoir, et de réciproquement, il va y avoir un nonce représentant du Saint-Siège auprès du gouvernement. Puis, depuis la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire à ce moment-là depuis 15 ou 16 ans, il n'y a pas eu de solution trouvée pour l'organisation des diocèses au plan administratif et juridique. Les associations cultuelles que recommandait la loi de séparation n'ont pas été acceptées par Rome à l'époque, donc on est dans un moment où il n'y a pas de structure juridique. Et en 1921, mais ça aboutira en 1924, il va y avoir une solution qui va être trouvée d'un commun accord. Dans chaque diocèse existera une association diocésaine dont l'évêque sera le président. Nous vivons encore sous ce régime. Bon. Benoît XV va mourir et laisser la place à un nouveau pape. Alors c'est un homme dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était un homme de caractère. Alors vous pouvez prendre le mot comme vous voulez. Quand on dit de quelqu'un qu'il a ou qu'elle a du caractère, ça peut vouloir dire quelqu'un d'énergique, mais ça peut vouloir dire quelqu'un aussi d'assez colérique, d'assez ombrageux. Bien, c'est, les deux sens sont valables pour Achille Ratti, qui est originaire de la région de Milan, qui est issu de la moyenne bourgeoisie, et qui va, d'une main de fer, conduire l'Église à travers bien des moments encore difficiles, parce que la guerre de 14 a changé des choses, mais a laissé beaucoup de problèmes. J'anticipe un peu, mais pour dire que il y a le problème, qui ne se résoudra pas d'ailleurs tout de suite, de la colonisation. Ces empires coloniaux, qui sont quand même très inégalitaires, où les grandes puissances européennes disposent dans des continents différents de sorte d'annexe de propriété. Donc c'est l'empire colonial. Alors les principaux empires coloniaux, c'est l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Belgique, un peu l'Italie. Mais il faudra beaucoup de temps parce que le mouvement colonialiste ne laisse pas place beaucoup à la contestation ni à la réflexion. À ce moment-là, ce sera même la départementalisation de certaines colonies. Je pense à l'Algérie. Avec des régimes un peu différents, mais parce que l'Algérie, c'est une colonie, la Tunisie, c'est un protectorat, avec le dey de Tunis, qui est un genre de roi, mais sous la tutelle française. Bref, et le Maroc va être l'objet de conflits entre la France et l'Espagne. Bref, il y a le colonialisme qui se développe encore avant de disparaître difficilement d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a l'arrivée de ce grand développement économique, technologique, commencé dès le XIXe siècle, mais qui n'en finit pas de grandir, de s'accroître, de s'accélérer. C'est l'époque où se répandent quand même alors les chemins de fer, n'en parlons pas, il y a des lignes qui arrivent à franchir des milliers et des milliers de kilomètres, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. Et puis il y a le développement de nouveaux moyens de communication, le télégraphe, le téléphone, rare encore au début du siècle. Moi, j'ai pu constater. J'avais un grand-père qui était directeur d'une compagnie d'assurance maritime. En 1907, il avait un numéro à Lyon de téléphone, mais c'était un chiffre, je ne sais pas, c'était 25. Et il devait y en avoir peut-être 200 sur une ville comme Lyon, à peine. Ça va se multiplier dans l'entre-deux-guerres. Et puis, il y a vers le grand capitalisme aussi qui existe, avec bien sûr ses corollaires, c'est-à-dire le développement des idéologies révolutionnaires, notamment la Russie qui est passée en quelques années d'un système tsariste extrêmement rétrograde à un système communiste en avance si on veut, mais qui balaye un certain nombre de certitudes de l'Occident. Puis, sur ce communisme d'ailleurs, va se développer une dictature, celle de Lénine, puis de Staline. Et en face, en Occident, d'autres dictatures se développent peu à peu dans les années 30. Hitler, avec le nazisme, National-Socialismus, nazi, Mussolini, avec le fascisme, et son équivalence espagnole, le franquisme. Et en Espagne, c'est au prix d'une très longue lutte fratricide. Donc c'est ce climat qui se développe et que va rencontrer quelqu'un comme Pie XI. Un certain nombre de catholiques vont avoir à se situer dans cet affrontement. Pie XI, homme de caractère qui va très vite voir un certain nombre de doctrines dangereuses. Je prends d'abord la France. En France, j'ai mentionné plusieurs fois la doctrine politico-culturelle et un peu religieuse de l'Action française. C'est un mouvement nationaliste créé dans le contexte de l'affaire Dreyfus pour exalter la patrie, la nation. C'est nationaliste. Ils sont bien sûr anti-Dreyfusards parce que Dreyfus, pour eux, est le symbole de l'infiltration juive et peu sûr au plan patriotique dans l'armée elle-même. Donc l'Action française va naître à ce moment-là. C'est un intellectuel qui est très séduit par le génie gréco-latin qui, après un voyage à Athènes, se dit que la grandeur d'un État exige la subordination de tous les éléments étrangers. Alors, pour lui, les éléments étrangers, les métèques, c'est le mot grec pour les étrangers domiciliés à Athènes, qui avaient un statut spécial. Alors, les éléments étrangers, qu'ils vont appeler les métèques dans l'Action française, les juifs, les francs-maçons, les protestants qui sont étrangers à la culture française, les socialistes, bien sûr, de l'international, tous ceux qui sont hostiles. Et puis, ils pensent que pour que cet esprit national ait sa consistance, sa force, il faut une dynastie à la tête. D'où le royalisme de l'Action française. Il est hostile à la démocratie. Alors, il faut faire très attention parce que, en réalité, démocratie et monarchie ne sont pas en soi antagonistes. Il y a beaucoup de démocraties en Europe aujourd'hui qui sont des démocraties, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, etc. Mais ils pensent qu'il faut une dynastie et ils condamnent la révolution de 89 qui a brisé une certaine unité nationale.
Nous aurons aussi à revenir sur le rôle du pape dont on a beaucoup parlé,
oui.
Sur Pie XI, justement sur la guerre et sur les juifs. Alors merci Lucien, merci à tous de votre écoute, de votre fidélité, au revoir et à bientôt.
Merci et au revoir.
Bâtisseur d'église, présenté par le père Luc Dangean, avec la complicité du père Lucien Lachiezeré. Bâtisseur d'église, la découverte de figures emblématiques de notre église à travers les siècles.